Jean-Philippe Toussaint, bonjour.
Bonjour.
On est très heureux de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Jean-Philippe Toussaint, vous êtes un écrivain extrêmement important, mais aussi un photographe et aussi un cinéaste. Et justement, c'est sur le versant de la photographie qu'on vous trouve aujourd'hui. C'est pas forcément le versant sur lequel vous êtes le plus identifié, grâce à l'apparition de L'Instant Visible, qui vient de paraître aux éditions L'Atelier EXB, et qui est à la fois un livre, et comme vous le dites... avec ce sens facétieux qui est le vôtre, dès l'ouverture, c'est en quelque sorte, dès le début, un livre introuvable. Qu'est-ce que ça signifie ?
Je me suis en fait rendu compte que ce livre était difficile à faire survenir. Et en effet, j'ai identifié ça comme quelque chose d'introuvable, un livre introuvable. Parce qu'en fait, ce qu'il fallait trouver, c'était le concept. Je dis même un moment, je crois, avec une allitération, je n'avais ni le concept ni le corpus. Donc, c'était quoi ce livre? Alors, l'idée ou l'intuition première, c'est que un jour, je me suis dit qu'il y aurait peut-être un livre à faire avec mes photos. Ça, bon, je pourrais presque dire, un matin, je me réveille et je me dis, il y aurait peut-être un livre à faire avec mes photos. Ça fait 40, 50 ans que j'ai toujours fait des photos. La photographie m'a toujours accompagné. Il y a eu d'ailleurs parfois des expositions, il y a eu parfois des tirages professionnels, il y a eu des... Mais disons que c'était quand même une activité annexe par rapport à la littérature, par rapport au cinéma, enfin, etc. C'était quand même quelque chose... Mais ces photos existaient, j'avais des négatifs, j'avais des tirages, j'avais... Et je me suis dit, il y a sans doute un livre enfoui à l'intérieur de ces photos, mais ce livre, et c'est là que j'ai trouvé l'adjectif, il est introuvable. En tout cas, je ne le pressens pas, je ne le saisis pas. Et une des choses annexes, d'ailleurs, très vite, je me suis dit, c'est j'avais besoin d'aide, j'avais besoin d'un regard extérieur. J'allais sans doute pas le trouver tout seul. Et donc après, c'est l'histoire de ce livre, c'est-à-dire qu'en fait, un jour, j'en parle à mon ami Philippe Séclier, qui avait fait une grande exposition à la Fondation Cartier, Autophoto. On parle et je lui explique que j'avais une sorte d'envie d'un livre. Et lui était très ami avec Xavier Barral, le grand éditeur de photographie. Et il me dit, je vais faire un déjeuner, on va en parler tous les trois. Et on a parlé pendant ce déjeuner, pour moi déjà, ce livre introuvable. Et j'explique un peu ce que je conçois, ce que je pourrais faire. Et bon, à la fin du déjeuner, on se dit « Ok, on va faire un livre ensemble ». Il était toujours d'ailleurs introuvable. On l'avait pas davantage trouvé, mais au moins, il y avait quelque chose qui avançait, c'est qu'on allait faire un livre ensemble. Et moi, j'étais assez fier de faire un livre avec Xavier Barral, chez Xavier Barral, le grand éditeur de photos. Ça me motivait. Et puis, la vie étant ce qu'elle est, concours de circonstances, Xavier Barral meurt brutalement. Ensuite vient la crise du Covid et puis dernier élément, après ce déjeuner, Philippe Séclier vient à Bruxelles chercher mes négatifs, mes photos. Donc en plus, je n'avais même plus mes photos. Donc je me dis, mais alors ce livre, non seulement il est introuvable, mais comment va-t-on le faire? Il n'y avait plus rien. Donc il était en train de se dissiper et puis petit à petit, les choses se sont remises en marche.
Alors, vous êtes aussi, vous le dites, un spectateur, quelqu'un qui connaît bien la photographie. Qu'est-ce que c'est pour vous, justement, un livre de photographie? Est-ce que les gens s'imaginent parfois que c'est simplement des photographies mises dans un livre? Or, ça fait l'objet d'une conception, d'une élaboration intellectuelle extrêmement forte.
Absolument. Et puis, il y a aussi cette réflexion, parce qu'en fait, c'est ça. Quand je fais un livre, la partie conceptuelle, la partie réflexion accompagne toujours le travail. Enfin, l'écrire, oui, certes, mais écrire pour faire quoi? Je réfléchis beaucoup, même pour les romans. Et une des réflexions que je m'étais faite, ayant déjà souvent ouvert des livres de photographie ou des livres d'artistes, c'est que j'avais remarqué qu'il y avait des très belles illustrations et que souvent il y avait des textes. Mais c'était peut-être une intuition, mais j'avais l'impression, enfin en tout cas dans ma pratique personnelle, c'est que ces textes, ils étaient un peu secondaires. Et moi qui suis écrivain, je n'aimais pas trop que le texte soit secondaire. Et donc je me suis dit, comment faire en sorte pour que un livre de photographie dans lequel il y aurait des textes que j'écrirais spécialement pour le livre et des photographies, comment faire en sorte que le lecteur lise les textes? Et donc, cette réflexion, je me suis beaucoup interrogé, et puis je me suis dit, j'ai fini par procéder par chapitre, on peut dire ça comme ça, et je me suis dit, le premier chapitre, déjà, s'il n'y avait pas de photos, il n'y aurait que des textes. Et si le lecteur fait comme il devrait, ouvre le livre et le prend dans l'ordre, eh ben, il commencerait quasiment un roman. Et c'est un peu ça, cette idée-là. Et d'ailleurs, ce début, ces chapitres, une dizaine, enfin, c'est plutôt ces pauses, ces paragraphes à l'intérieur de ce premier chapitre commence en fait, raconte la jeunesse du livre, raconte l'histoire du livre. Et d'ailleurs, le chapitre s'appelle Le livre introuvable.
Alors justement, vous avez une très belle formule au début pour qualifier ce livre introuvable. Vous dites finalement le travail photographique, les photographies vous prenez depuis presque toujours, comme vous le dites. Finalement, elles sont composées de trois parts, la part du roi, la part des anges et la part d'ombre.
Oui.
Et est-ce que vous pourriez nous dire un peu voilà ce que sont ces trois parts au sein de votre travail photographique?
Oui, alors c'est vrai, ça c'est toute la partie de réflexion conceptuelle qui accompagne ce travail-là. Et je pense que le livre n'aurait pas eu de sens s'il n'y avait pas eu cette réflexion-là. Je voulais pas faire un essai. Je ne veux pas que ce soit... Donc, il y a juste cette réflexion qui est presque en surface, mais qui accompagne. Et la partie, je pense, la plus intéressante, c'est la part belle que je fais aux photos inexistantes. Et je dis, les photos inexistantes sont... Enfin, c'est quoi des photos inexistantes? C'est une photo qui n'est que mentale. C'est une photo que j'ai seulement... imaginer que je n'ai pas prise et je dirais bah, pour l'écrivain que je suis dans le corpus de mes photos la plupart sont des photos inexistantes, ce sont des photos que j'ai imaginées mentalement qui ont pu accompagner l'écriture d'un livre, qui ont pu accompagner le tournage d'un film, que j'ai pu imaginer sans appareil photo, mais que ces photos inexistantes c'est la part du roi pour l'écrivain que je suis. Et je m'appuie aussi sur le très beau livre d'Hervé Guibert, L'image fantôme, qui est un livre essentiel autour de la photographie. Et il y a le premier texte de L'image fantôme où Hervé Guibert raconte qu'il va photographier sa mère. Il raconte l'histoire, ce moment très fort avec sa mère. Et puis, il va chez le photographe, il dépose le négatif, il revient les chercher et il n'y a rien sur la pellicule parce que le film avait été mal enclenché. Et d'ailleurs, c'est une anecdote, ça m'est arrivé aussi, c'est quelque chose de très 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 frustrant, le travail qu'on a fait n'existe pas, a disparu. Et donc, il se rend compte que tout cet après-midi qu'il a passé avec sa mère, tout ce qu'il a réussi à lui faire faire, n'existe pas, disparaît. Et puis, face à ce désastre, il y a l'écriture. Et il y a le premier texte de l'image fantôme qui fait renaître, en fait, toute cette expérience. Et en fait, ces photos inexistantes, alors je parle des photos inexistantes de Guibert, finalement, prennent une sorte de dimension qu'elles n'auraient jamais eue si elles avaient existé. Et que finalement, c'est par la littérature qu'elles vont avoir ce pouvoir incomparable. Et pourquoi? Parce que finalement, elles vont se fonder dans l'imaginaire. Et donc, la photographie rejoint la littérature dans ce cas-là.
Oui, alors ce que vous dites aussi là, dans l'entretien qui clôt le livre avec Philippe Siclier, c'est qu'effectivement, à la fois elle la rejoint et en même temps, ce qui est la fin de l'une et le point de départ de l'autre. C'est-à-dire, vous dites effectivement, la photographie, c'est une image à laquelle on aboutit quand on vient la regarder, alors que l'image en littérature, on en part justement pour ouvrir vers un autre espace.
C'est ça. Alors, il y a ça aussi. C'est comment finalement l'image littéraire qui m'est très familière, et puisque j'ai une écriture très visuelle, a une sorte de, je dirais, de supériorité. Je mets entre guillemets le mot supériorité, mais laisse une place énorme à l'imaginaire du lecteur. C'est-à-dire que le lecteur la complète complètement. L'image photographique, certes, le spectateur participe à la façon de regarder une image photographique. Mais il y a quand même beaucoup moins cette possibilité de partir dans son propre imaginaire. Et j'utilise l'image du tremplin. Enfin, que l'image littéraire est une sorte de tremplin vers l'imaginaire. Alors que dans l'image photographique, on reste un petit peu... on est un petit peu collé au support, collé au papier. Alors certes, de temps en temps, il y a quelque chose qui se passe. Mais disons qu'il y avait toute cette réflexion. Et évidemment, Tout au long du texte, j'interroge les relations entre la, l'image photographique, l'image littéraire. Et pour continuer la, comment dirais-je, les trois parts.
Absolument.
La part du roi, les photos inexistantes. Après, il y a la part des anges. Alors ça, c'est part des anges. En fait, c'est l'alcool qui se dissipe avec le temps. Et je trouvais que c'était assez beau de parler de ça pour la photographie. C'est toutes les photos qu'on a faites, mais qui finalement ont disparu. Alors elles se sont pas évaporées, ça sera encore plus beau qu'elles s'évaporent vraiment les photos. Mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que je sais que les négatifs des photos que j'ai faites avec le Praktika, où sont-elles? Les tirages les tirages des photos des pêcheurs portugais que j'ai fait à l'été. Je sais pas, 77, 78, où sont-elles? Et à un moment, il y a quelques traces, et je me souviens d'un meuble, ou même, c'est même pas un meuble, c'est une sorte de... comment appeler ça? C'est un récipient en bois où j'avais toutes les planches contact. Mm-hmm. Il a existé à un moment, mais où est-il? Alors ça, il s'est dissipé. Enfin, là, ça, c'est la part des anges. Et là, il y en a une quand même que j'ai sauvée. Alors, où le négatif a disparu, mais j'avais fait un tirage que c'est un portrait de ma mère, donc je l'avais offert à ma mère et ma mère l'avait découpé et mis dans un cadre. Et ça, c'est vraiment une sorte de vestige. Et ça, j'ai un jour discrètement sorti la photo du cadre. Je l'ai portée dans un labo photo, fait scanner. Fait tirer, et donc alors c'est une renaissance complète, un portrait de ma mère parmi les photos disparues, enfin, quelque chose de cet ordre là voilà, les photos et puis il y a quand même les photos que ce qui reste le corpus véritable en fait du livre L'Instant Visible, qui si on peut le resserrer, ça peut être seulement 4-5 ans, la fin du 20e siècle, les années 98-99, et le début du 21e siècle, 2000-2001-2002, des photos que j'ai faites en Asie. Alors, elles ont des points communs, photos que j'ai faites en Asie, photos de nuit, Japon, Chine, etc., avec le Nikon, et très peu de lumière extérieure. Et ça, c'est ma pratique photographique. Et donc, le livre, il est centré autour de ce point. Mais disons que c'est un chemin aussi. On va vers cela. Il y a toute cette réflexion. Je repasse par l'enfance, je repasse par l'adolescence pour arriver finalement à ce corpus des photos que j'ai faites et qui s'apparentent à un vrai travail photographique.
Alors justement, vous évoquez le passage par l'enfance et l'adolescence. Vous avez évoqué en passant là quelques noms, quelques marques d'appareils, parce que votre livre est aussi une sorte d'histoire matérielle de votre pratique de la photographie. Et ce qui est frappant, c'est que dans la photo faite à votre adolescence, que vous faites donc avec un Instamatic, me semble-t-il, c'est déjà une sorte de dispositif. Et ça ne ressemble pas, on va dire, aux photos que font un adolescent de 15 ans dans les années 60-70, quand il a un appareil où il va photographier justement ses parents, ses amis, ses voyages. Là, c'est autre chose. Et c'est déjà ce décalage, je trouve, il dit quelque chose de l'œuvre à venir aussi.
Absolument. Et disons, j'en ai eu l'intuition en retrouvant l'album. En plus, j'ai retrouvé l'album dans des circonstances particulière à la mort de ma mère. Je pensais que ces photos avaient disparu. Cet album est un objet très beau, un peu granuleux, couleur un peu bordeaux, avec les pages papier cristal qui séparent, les tirages qui ont été avec les quatre coins un peu jaunis. J'ai revu ces photos et c'est vrai que j'étais quand même assez surpris, même moi-même, j'étais assez surpris en disant quand même, à 15 ans, ce que je faisais, c'est étonnant. En effet, comme vous dites, je n'ai pas photographié mes parents, papa, je n'ai pas photographié ma soeur, mes copains. On dirait en effet des installations, on dirait un travail d'un artiste contemporain, alors que je n'avais pas particulièrement... Enfin, c'était inattendu. Et puis, il y avait aussi cette réflexion autour de la mort, et l'image que je retiens, enfin, j'aurais pu en sélectionner d'autres, mais j'en ai gardé une qui est une sorte de mannequin que j'avais composé, un peu de briques et de broc, une veste de surplus américain, un masque africain, un chapeau mexicain, un revolver de cow-boy, etc. Mais ce mannequin se tire une balle dans la tête. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose de cette évocation de, est-ce que je peux dire le petit garçon ou le tout jeune homme que j'étais, qui fait une installation devant sa chambre d'adolescent, et ce mannequin se tire une balle dans la tête. Je trouvais que c'était quand même assez surprenant. Et il y avait la mort qui rôdait. J'associe ça à la mort d'un ami d'enfance aussi. J'associe ça à la mort de ma mère qui me fait retrouver ces moments-là. Et donc là, on est dans la littérature.
Oui,
le souvenir, l'enfance, la mort, l'adolescence, la difficulté de ce passage de l'adolescence. Je l'avais un peu abordé dans L'Échiquier, dans ce livre plus autobiographique. Et là, ça venait un peu de remettre une couche dans cette réflexion autobiographique et ce passage aussi difficile de l'adolescence. C'était un moment où il y a eu ce déracinement, où j'étais très bien à Bruxelles jusqu'à 12-13 ans. Et puis, me retrouver en pension à Maison Lafitte à 14 ans, ça m'a un peu perturbé. Puis c'est l'adolescence, enfin, c'est un moment difficile pour la plupart des jeunes gens. Et je l'ai vécu un peu difficilement. Il y avait quelque chose de très mélancolique. Puis de temps en temps, la mort qui rôdait, cet ami d'enfance qui est mort, ça m'avait quand même saisi aussi. Et tout ça a complètement sa place dans ce livre de photographie, je trouve. Même si là, la pratique est très limité, puisqu'il y a quelques photos retrouvées, mais ça fait vraiment partie de cette réflexion. Ça tourne autour quand même de ce que peut proposer la photographie.
Oui, et ce que peut proposer aussi une forme de mise en scène du réel, ce que vous évoquez aussi un peu plus loin, donc à propos de L'Échiquier et de la mort de cet ami, et de retrouver cette lettre où vous vous rendez compte que finalement, entre ce que vous pensiez être à la fois son prénom, les circonstances ne sont pas celles que vous pensez. Et là aussi, cette histoire à chaque fois, la valise avec laquelle sont transportées les photographies, entre le réel, la vérité et l'usage qu'en fait l'œuvre, c'est dans ces écarts-là que se crée la création, justement.
Oui, et la richesse aussi. Oui. Je pense que en effet, cette façon... c'est une réflexion sur la vérité et la fiction, pour le réel et la fiction, et qui m'a saisi. En effet, vous évoquez très justement cette lettre que je retrouve. J'évoque cette lettre dans L'Échiquier, et je dis, mon ami Thierry, je vous passe le nom de famille, mon ami Thierry m'écrit et m'annonce la mort de Dominique. Et en fait, je me rends compte en lisant cette lettre, 50 ans après, que c'est pas mon ami Thierry, c'est mon ami Philippe. C'est Philippe qui m'avait écrit la lettre. Et que Dominique, cet ami mort à 13 ou 14 ans d'un accident à la montagne, il me dit, Michel est mort. Donc Dominique, alors que j'étais persuadé que Dominique s'appelait Dominique, enfin que j'avais retranscrit son véritable prénom, je vois la réalité qui vient contredire le... Et alors je me dis, mais voilà, c'est très beau, quoi. Donc Dominique, c'est la fiction, et Michel, c'est la réalité.
Et là, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a un moment au tournant des années 90-2000 dans lequel, effectivement, vous avez le sentiment d'être dans un devenir de photographe, à la fois parce que vous faites des photos, mais aussi parce que ces photos sont montrées, Alors justement, et dans le livre, il y a un moment, il y a ce que vous appelez ma première photographie. Donc évidemment, on arrive à ce moment-là du livre, on en a déjà vu un certain nombre qui sont antérieurs. Donc qu'est-ce qui fait que cette première photographie est la première dans ce que vous appelez la nuit de Kyoto? Alors, est-ce que c'est une référence à la nuit de Gênes de Valéry? On peut le penser aussi. Qu'est-ce qui se passe au moment où vous avez ce sentiment-là?
Oui, en effet, la nuit de Kyoto, c'est une référence. Je crois que j'ai gommé parce que j'avais cité Valéry et Kafka aussi. Je pense que j'avais cité Kafka, il a un peu sa nuit quand il écrit Le Verdict, sa nuit du 22 au 23 septembre. Et donc, il peut y avoir, alors, c'est peut-être pas aussi net que ça, mais j'aimais, préparant ce livre, dire, ben voilà, j'ai eu une révélation. C'est quand même assez vrai. C'est quand même sans doute ce moment. Je pense que ces 4 mois où j'étais résident à la Villa Kujoyama à Kyoto, il y a quelque chose qui s'est passé. Et je le raconte assez précisément avec la rencontre du photographe Kai Fusayoshi, qui a un bar. le bar du photographe, on disait entre nous, et Kay faisait des photos tout le temps, tout le temps, tout le temps, et en particulier la nuit dans son bar, et évidemment, il n'utilisait pas de flash, et il prenait même pas des 400 ASA, il poussait pas la pellicule particulièrement, donc peut-être avec du 125 ASA, etc., il faisait des photos la nuit, avec ce qui se passait, et donc j'avais déjà fait des choses de cet ordre-là, mais disons que je l'ai fait plus systématiquement. J'ai mieux compris comment, en fait, c'était très intéressant, en particulier de faire des portraits sans aucune lumière, avec du 125 ASA, et donc des temps de pose très longs, naturellement, et de préférence prévenir le modèle qu'il ne fallait pas bouger trop, parce que sinon il n'y aurait vraiment rien. Et donc il y a eu une sorte de moment où j'ai pris conscience que je faisais, alors, quelque chose de spécifique. Il y avait cette réflexion autour de la photographie et que j'avais quelque chose de spécifique. Et cette chose spécifique, c'était la nuit, c'était d'utiliser la lumière existante et donc les sources de lumière. Et en Asie, peut-être beaucoup plus qu'en Europe, il y a cette multiplicité de sources lumineuses très jolies, très ténues, avec des arrière-plans, des lanternes ou des bougies ou des choses comme ça. Et qui en fait construisent. Enfin, on peut construire une image à partir de toutes ces sources lumineuses. Et ça je l'ai compris. Et donc, c'est pour ça que je parle de la nuit de Kyoto. Alors, l'autre texte auquel vous faites allusion, qui est le jour où j'ai fait ma première photo, en fait, c'est une sorte de recréation littéraire qui est une réflexion un peu sur la pratique artistique et disons où c'est quelque chose à laquelle j'avais souvent songé, que en photographie, mais pas seulement en photographie, quand on produit quelque chose d'artistique, généralement le sens commun est de dire ce qui compte, c'est le résultat. Enfin, le tableau achevé, le livre fini, la photo exposée. Et ce que je percevais, l'intuition que j'avais, c'est que pour ma part, certes, j'attachais de l'importance au livre terminé, au film fini, etc., mais que l'essentiel était dans le faire, dans le moment où, justement, le moment de la création. Et que justement, je racontais l'histoire d'une photo que j'avais prise dans un temple à Kyoto, Nanzenji, où en réalité, ce qui était intéressant, c'est pas tellement ce que j'avais photographié, mon ombre en reflet, enfin, ou le reflet de ma tête sur une paroi, c'était plus ce qui s'était passé, le moment où j'avais pris conscience que tous mes gestes étaient un peu rapide, un peu occidentaux, enfin, et puis ce moment où j'ai commencé presque à fixer ma respiration, à regarder les graviers du temple, ce qui se passait, et que finalement je me suis dit, tiens, là j'atteins quelque chose, et puis il suffit après de soulever l'appareil, et quelque chose est plus juste. J'ai trouvé quelque chose de juste. Et c'est là que j'ai parlé de le jour où j'ai fait ma première photo, mais en effet, j'avais déjà fait des photos auparavant.
Parce que finalement, il n'y a pas d'œuvre sans conscience de l'adoration de l'œuvre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette dimension par laquelle l'œuvre advient dans un processus, comme vous le dites, qui n'est pas forcément tendu uniquement vers son accomplissement, mais aussi vers le moment où se conçoit et se produit l'œuvre.
Oui, d'autant que, pour ce qui me concerne, il y a toujours cette réflexion sur ce que je suis en train de faire. Ce côté méta-littéraire, ou ce côté making-of, enfin, ce goût des coulisses, de savoir ce que je suis en train de faire, cette réflexion. Et ça c'est une des choses qui m'a toujours intéressé. Pour la littérature, j'ai écrit, pardon, L'urgence et la patience, qui est vraiment un livre sur la réflexion. Il y a un autre livre qui s'appelle C'est vous l'écrivain. J'ai quand même écrit deux livres sur la pratique de l'écriture, la façon la plus concrète. Et je pense que dans ce livre-là, L'instant visible, il y a aussi, on voit bien que la réflexion qu'il y a avant d'appuyer sur l'obturateur est aussi importante que la photo que j'ai faite. Donc, qui a que la réflexion conceptuelle fait autant partie du travail de que la photo que le. Donc, en réalité, que c'est assez cérébral la façon dont oui. je fais des photos.
Est-ce que ce qu'on perçoit par exemple dans votre pratique de l'autoportrait?
Oui.
C'est dans ce que vous dites de très juste sur autoportrait, c'est qu'il y a une volonté simultanée d'apparaître et de disparaître, c'est-à-dire d'être présent à la fois puisque c'est un autoportrait et en même temps, il ne s'agit pas de reconnaître vos traits tels qu'on les voit là, et on sent que et ça ressemble aussi à des choses que vous pouvez faire en termes d'écriture, c'est-à-dire que cette idée de l'apparence va devenir quelque chose qui est un support plus fort que ce qui est représenté, c'est une chose qui est très très forte.
Oui, intuitivement, je me suis toujours intéressé à l'autoportrait et en même temps, la réflexion très vite, je me suis intéressé à l'autoportrait en général et par exemple, le grand maître de l'autoportrait en peinture, c'est Rembrandt. Et Rembrandt, on voit bien que ce qui l'intéresse, ce qui l'interroge en permanence, c'est la peinture. On a compris ça. Et puis, il y a, disons, la question du narcissisme, finalement, est complètement transcendée par Rembrandt. Et donc, comment réussir cela? C'est-à-dire que comment transcender la question du narcissisme? Et donc aussi, comment, vous avez très justement parlé, absence-présence, il y a ce côté dialectique. Ça m'intéresse énormément parce que l'absence est très présente, si je puis dire, oui, dans mes photos. Et il y a toujours une sorte de dialectique entre présence-absence et qui me semble être vraiment au cœur de... Beaucoup plus, alors ça c'est curieux, c'est paradoxal, beaucoup plus que la mort. On sait, tout le monde dit, Barthes l'a magnifiquement écrit, combien la mort est associée à la photographie. Et moi, c'est pas la chose qui me viendrait à l'esprit immédiatement, c'est plus... L'absence, alors certes, la mort est liée à l'absence, d'accord, mais c'est plus la dialectique présence-absence. Et c'est moi, c'est autour de ça que je tourne. Et dans l'autoportrait, il y a quand même une trace de la présence, mais une trace aussi de l'absence. J'aime bien que un autoportrait réussi montre autant la présence que l'absence.
Avec une autre dimension, dans la très belle série que vous faites avec... avec Madeleine, de photographie en couleur dans un hôtel parisien, autour des années 90 aussi, il y a une très belle justement mise en dialectique avec le moment où vous vous rendez compte que chez Proust, il fait l'usage du présent pour parler du passé dans le passé, non pas du plus que parfait. Et vous vous dites, voilà, cet usage de la couleur, de retrouver la couleur, c'est aussi cette façon... Alors là, c'est pas tant l'absence que l'écoulement du temps qui est manifesté par cette dimension-là.
Absolument, c'est le paradoxe. C'est d'abord, je me souviens du moment où j'ai souvent relu le passage de la Madeleine de Proust et je m'étais jamais dit, ah, mais c'est incroyable. Il évoque le passé dans le passé, donc tous les profs de français vous diraient, ou les écrivains, plus que parfait, non, le présent. Et ça marche très très bien, c'est saisissant. Et c'est totalement inattendu. Et je me suis dit, mais là, mon livre, en réalité, le passé du livre, c'est le noir et blanc. Et à un moment, ce serait quand même très paradoxal si je voulais aller plus loin et que j'utilise la couleur. Au lieu de dire que la couleur serait aujourd'hui, la couleur, c'est avant. Enfin, et ça, c'est... Au cinéma, il y a pu avoir de ce genre de réflexion. Je crois qu'il y a un film comme ça où ça m'avait frappé, où c'était le contraire. Enfin, justement, que le temps présent était le noir et blanc.
Dans Oppenheimer.
Exactement.
Exactement. Ça.
Voilà, et c'est très surprenant.
Oui, ça crée un effet narratif de fait que le ressemble à une archive d'un côté, la narration de l'autre.
C'est ça. Donc, c'est tout à fait dans cet esprit-là que dans ce livre-là, quelques photos couleurs apparaissent. Enfin, en tout cas, il y a cette réflexion sur le temps aussi, bien sûr.
Alors, justement, ce que vous évoquez là, il y a deux analogies intéressantes. À un moment, vous faites une partie sur la question, vous appelez roman photo, sur l'articulation littérature et photographie, et puis sur film photographique aussi. Et dans roman photo, ce qui est très important, c'est vous montrer à quel point l'embrayage est conceptuel. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit jamais de rendre compte littérairement d'une image, mais l'image peut servir, je vous donner un exemple concret, l'image peut servir d'embrayage conceptuel et narratif presque à la littérature.
Oui, alors ça, c'est vrai qu'il n'y a absolument aucun usage de la photographie comme repérage, ou c'est rarissime. Enfin, en 40 ans, je crois qu'une fois, j'ai été faire des photos de repérage rue de Lavrière pour un livre où Marguerite de Montal habitait rue de Lavrière et en face de la Banque de France. Et là, un jour, j'étais faire quelques photos de repérage, mais c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Je fais pas du tout ça. Mais en même temps, les photos qui m'ont toujours accompagné, elles sont à côté de moi et de temps en temps, elles peuvent en effet, comme vous l'avez dit, servir de point de départ. Et deux fois, c'est très manifeste, la scène de fuite à trois sur une moto, l'idée d'être à trois sur une moto, elle est venue d'une photo que j'avais faite où il y avait trois personnes sur une moto. Ça, je pense, enfin, je sais pas, ça me serait pas venu à l'idée tout seul d'une fuite à trois sur une moto. Et voyant trois personnes sur une moto, ce qui est peut-être beaucoup plus fréquent que ça en Asie, à Paris, trois sur une moto, c'est une image très forte. Et c'est cette image-là que j'ai saisie. Donc, qui venait de la réalité asiatique que j'avais saisie tout à fait par hasard une nuit à Changsha. Et l'autre, je l'évoque aussi, c'est l'hôtel où j'étais à Tokyo, où les lustres étaient resplendissants, et je photographie ces lustres, et après, les revoyant, il y a un moment où je décris carrément les trois lustres, et là, je regarde, je décris, et ça, c'est très rare aussi. Mais la photographie a quand même été peut-être pas un outil, mais un support. Je me suis servi de temps en temps des photos que j'avais faites pour aider, mais pas du tout d'un point de vue pratique de repérage qu'on pourrait attendre.
Oui, vous dites dans l'entretien que vous avez à la fin, vous évoquez le fait de retrouver la texture du rêve. Ce qui est une image d'abord très belle, et avec l'idée que ce qui importe, c'est la texture. C'est-à-dire que c'est la trame, et non pas retrouver, ce qui est toujours un peu pauvre, finalement un peu décevant à l'écrit, l'imagerie du rêve.
Exactement. Ça c'est une réflexion qui poursuit d'ailleurs cette idée qu'il y avait un côté monologue intérieur dans ce que j'écrivais, mais un monologue intérieur non pas verbal, comme chez Joyce, l'exemple classique du monologue intérieur, mais un monologue intérieur visuel. Et donc, il y aurait mentalement un film qui se déroulerait. Donc, et ça, c'est quand même un peu ce qui se passe quand on rêve la nuit. Il y a comme un film qui se passe. Et en effet, ça m'intéressait du point de vue de la texture. Qu'est-ce qu'on voit, comment c'est fait techniquement, et non pas ce que ça raconte, non pas le côté onirique qui est super casse-gueule et qui n'irait pas du tout à l'écrire, enfin, en tout cas ne m'intéresse pas du tout. Et raconter des rêves, ça m'intéresse pas, lire des récits de rêves, ça m'intéresse pas, mais essayer de me dire comment le rêve est fait, à partir de quoi, comment il est à la fois visuel et très lié à notre intimité, comment il nous apporte des grandes émotions, ça c'est une chose qui m'intéresse beaucoup.
Avec justement cette question de l'image, elle se lie à votre autre actualité, puisque vous dites aussi dans l'entretien que la littérature, c'est faire des images avec des mots aussi, même si ce n'est pas les mêmes images que la photographie. Or, au même moment que paraît ce livre, vous avez fait paraître une nouvelle traduction aux éditions de Minuit du Verdict de Kafka. Et dans le texte qui suit votre traduction, vous dites « cette traduction, elle m'est venue ». De l'image qui est au centre de cette nouvelle. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, cette nouvelle, hein, qui est un cas un peu particulier, écrite en une nuit par Kafka. Et cette image a déterminé à la fois votre envie de traduire, de comment le traduire, et puis finalement, ça a grossi à partir de cette image centrale.
Oui, c'est je raconte, jamais je n'aurais pensé traduire un jour le Verdict, même si j'ai toujours eu le fantasme de traduire Kafka, même si quand je vivais à Berlin et j'apprenais l'allemand, je me disais, je pourrais peut-être lire Kafka en allemand. Enfin, il y avait cette idée, donc c'était une sorte d'objectif. Et puis, bon, un peu par hasard, j'étais invité l'année du 100e anniversaire de la mort de Kafka à un débat. Je lis un livre qui est centré autour du Verdict. Je lis une nouvelle traduction. Il y a cette image du père qui se dresse sur son lit en face du fils. Enfin, le surplomb, l'image d'un surplomb paternel. Et je me dis, cette image est incroyable. Et ayant déjà traduit un texte de Stefan Zweig, la charte nouvelle Échec, que j'ai traduit par Échec, je me dis, c'est quoi la phrase allemande? Et donc, un peu par curiosité, je vais voir, je retrouve la phrase allemande et j'ai envie de la traduire. Et donc, ça part de là. Et après je raconte, comme le VD est assez court, j'ai continué, je suis arrivé à la fin de la nouvelle, puis arrivé à la fin, je me dis, reprenons le début, allons-y. Et puis, comme c'est un texte qui n'est pas très très long, j'ai tout traduit, mais après, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis rendu compte combien tout part de cette image. Et aussi, et ça, il y a cette réflexion dans la postface que je fais à l'édition du Verdict, qu'a publié Minuit, c'est de me dire que l'image littéraire est différente de l'image cinématographique ou de l'image théâtrale, parce que l'image littéraire ne doit pas tout préciser. Et en fait, elle est complète parce que le lecteur la complète. Mais que cette image du père qui se dresse à la verticale en face du fils, il faut la compléter et notamment habiller le père. Ou pas d'ailleurs, ça peut être une sorte de flou. Mais au théâtre ou au cinéma, il faut dire qu'est-ce qu'il a comme caleçon, en quel tissu, qu'est-ce qu'il a comme chemise, qu'est-ce qu'il a comme, est-ce qu'il a un bijou, est-ce qu'il y a du papier peint, est-ce que les murs sont blancs, est-ce qu'il y a une lampe à abat-jour, est-ce qu'il y a une lampe classique, et combien finalement l'image littéraire permet quelque chose d'allusif et qui laisse cette grande place. Donc il y a eu une sorte de réflexion. Que je m'étais déjà fait intuitivement comme ça, mais j'ai mis noir sur blanc en quoi l'image littéraire est spécifique.
Sachant qu'on peut imaginer que c'est justement ce caractère allusif, qui la rend aussi forte. Exactement. Que ce soit l'image centrale ou l'image finale du verdict, c'est justement parce que c'est nous, lecteurs, qui la complétons, qu'elle est aussi, qu'on y croit autant, puisque on nous l'a pas racontée, on l'a nous-mêmes construite.
C'est la très grande force de la littérature, force incomparable de la littérature, c'est que la part de l'imaginaire est beaucoup plus grande qu'au cinéma et qu'en photographie. C'est-à-dire que même si elle n'est évidemment pas absente au cinéma et en photographie, il y a quelque chose de beaucoup plus directif, de beaucoup plus qui impose au cinéma ou en photographie, on impose, enfin, je dirais. Peut-être moins en photographie, parce que comme il y a moins d'avant et d'après, et donc il y a peut-être à imaginer de l'avant, de l'après, de derrière, etc. Au cinéma, finalement, je ne nie pas qu'il y a une part d'imagination, etc., mais le cinéma impose quand même beaucoup plus, et la littérature permet à l'imaginaire de s'épanouir.
Jean-Philippe Toussaint, merci beaucoup pour à la fois ces éléments entre littérature et photographie. Et merci pour ce très beau livre d'images aussi.
Merci à vous.